give me some room so I can rock some more. Kick off your shoes, stomp on the floor. Come on, baby, let's rock a little more. Let's up, baby, rock. Come on, baby. Up, baby, rock. Hey, come on, baby. Hey, my baby.
Le manche disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Julien et Nico. Comme tous les 15 jours, c'est parti pour une nouvelle émission du manche disque. La sixième pour tout vous dire, dans laquelle on va s'écouter des disques vinyles d'hier et d'aujourd'hui, issus de notre collection à tous les deux. On va croquer ensemble dans du bon rock, on va découvrir une jeune anglaise prometteuse, et même du Pierre Bachelet plus surprenant que jamais. On vous parlera aussi d'un rendez-vous incontournable à venir dans notre belle région, mais tout de suite on démarre avec une reprise d'un tube nord-irlandais par une italienne. Salut Julien.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va très bien, ça va très bien. Et on commence fort avec un morceau de Caterina Caselli.
Et oui, comme j'ai dit, une reprise d'un tube composé par un nord-irlandais, par une italienne.
Exactement. On a écouté Il Volto della Vita. Donc, c'est la reprise de Days of Pearly Spencer. Ouais. Ça date de 1968. J'ai tiré ça d'une petite compile intéressante qui s'appelle Bellissima, une compile récente qui date de 2019, parue chez Ace Record Ltd, qui s'appelle Bellissima, More 1960s Sheep Hop from Italy.
Ouais. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime bien faire cette émission avec toi, parce qu'il n'y a que toi pour sortir des choses un peu bizarroïdes comme ça, mais à chaque fois excellentes. Des trucs que moi, j'aurais jamais tiré de la caisse de vide-grenier et que toi, tu prends
ouais,
et tu
là,
me fais découvrir.
J'ai trouvé ça très, très bien, effectivement, même si ce n'est pas follement original. En fait, je vais vous parler un petit peu de Caterina Caselli. Donc, elle se fait connaître quand elle remplace au pied levé Adriano Celentano pour interpréter Nessuno mi può giudicare. Alors, elle est surnommée Casco d'Oro, donc casque d'or, avec ses cheveux blonds. Elle a 19 ans à l'époque. Elle entre ensuite chez CGD en 65 et devient une star. Elle est chanteuse, mais aussi actrice. Et elle va alors se spécialiser, un peu comme on l'a vu aussi en France à la même époque, se spécialiser dans l'interprétation et les reprises de titres célèbres traduits, là pour le coup en italien, mais nous on en a pléthore aussi en français, Vanina, Dave, etc. Donc elle reprend Painted Black, qui s'appelle Tutto Nero. Elle reprend Baby Please Don't Go, qui devient Sono Qui Con Voi, et donc la reprise de Day of Pearly Spencer de David McWilliams. Ensuite, elle va un peu passer au second plan. Elle se marie avec le fils de son patron et elle se tourne alors vers le management, activité qu'elle pratique encore aujourd'hui puisqu'elle s'occupe d'artistes assez connus comme notamment Andrea Bocelli.
Ah oui, quand même.
Donc voilà, elle est restée dans la musique depuis 50 ans, d'abord dans l'interprétation et ensuite dans le management.
Mais plutôt en second plan.
Voilà, ouais. Exactement.
Donc on va enchaîner avec un autre morceau à toi, ça tombe bien, parce que moi comme ça je vais rentrer dans l'émission tout doucement.
Voilà.
Je suis un peu fatigué, tu sais, j'ai fait la grosse Java moi, vendredi soir,
oui.
C'était les 20 ans de Funkadelica au Jokers, Java c'est pas du tout le bon terme d'ailleurs, hein, parce que c'était une soirée bien funky et qui était très bien marrante. Je remercie encore les camarades de Funkadelica, le Jokers, tout ça pour nous offrir des petites soirées comme ça, on a profité d'un super concert d'Alex Grenier. J'en dis deux mots quand même, j'ai chopé du vinyle, donc ça je vais vous en passer dans l'émission, ça c'est sûr, parce que ça a confirmé, je ne l'avais jamais vu sur scène, je connaissais un petit peu comme ça sur support classique, mais enfin à la radio en gros, mais j'ai chopé ces vinyles parce que sur scène ça m'a vraiment fait une très très forte impression, et on aura l'occasion d'en repasser, et à la suite de quoi, à la suite de ce concert, il y a eu aussi des DJ sets de nos amis qui étaient absolument savoureux, voilà. Donc je te laisse la parole maintenant pour nous présenter un autre de tes morceaux.
Oui, The Wakers. Alors là encore, c'est tiré d'une petite compile, la réédition d'une compile plus ancienne, elle, puisqu'on parle de The Best of Bump, volume 1, donc de chez Bump Records, 1978.
Ouais.
Donc, un morceau du groupe qui s'appelle The Wakers, c'est un groupe formé en 1970, un groupe américain. Il a sorti 3 albums chez Elektra en 71, 73 et 73. Il se sépare en 1974 après une série de départs du groupe, en fait, qui va le fragiliser, qui va l'abîmer. Non sans avoir travaillé sur un hypothétique 4e album qui s'appelle Rock and Roll, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'appelle, puisqu'il n'est jamais sorti. Mais le label Bump va mettre la main sur les bandes et va quand même proposer dans son Best of Bump un single. Voilà, qu'on peut entendre sur cette sympathique petite compile qui reprend également des titres de Iggy and the Stooges et du premier album Kill City que Iggy a fait presque en solo puisqu'il est avec James Williamson, son guitariste. Donc là on écoute The Wakers avec le titre Captain Nemo.
Yeah.
The Wakers, Captain Nemo. J'ai bien aimé le petit passage au départ un peu sous-marin, quoi, où le mec il parle, on dirait qu'il est dans l'eau là.
Oui.
Ouais, c'était rigolo. On va changer complètement de thème là et de style, puisque c'est le moment, je voulais annoncer en intro de l'émission, c'est le moment de découvrir un Pierre Bachelet tel qu'on le connaît mal, me semble-t-il. Mmh. Julien, je suis sûr que tu sais tout à fait qui est Pierre Bachelet.
Oui, tout à fait, un peu.
Je n'en doute pas, tout le monde le sait, mais au cas où, voilà, ce célèbre auteur, compositeur, interprète français, qui a notamment signé son premier succès quand même, ça a été la bande originale du film un peu coquinou. Emmanuel, hein, que tu as peut-être vu dans ton adolescence, ton enfance peut-être même, je te vieillis pas quand même. Hein. Et puis dans la foulée, quelques titres incontournables de la chanson française, donc tu l'as dit, Les Corons, Elle est d'ailleurs, Le Marionnettiste en l'an 2001, etc., etc. Ce qu'on connaît beaucoup moins de Pierre Bachelet, ce sont les morceaux instrumentaux funky électro qu'il a pu réaliser au cours de sa carrière, principalement justement avant le succès qui le cantonne un peu dans le style qu'on lui associe spontanément aujourd'hui. Donc, parce que moi, perso, je vais le dire, hein, je, malgré tout le respect que j'ai pour sa carrière, hein, que beaucoup de musiciens peuvent envier, moi, le Pierre Bachelet que tout le monde connaît, c'est pas trop ma came, donc je vais pas en avoir beaucoup dans ma... Je vais pas du tout en avoir dans ma collection. Si ce n'est pour quand même satisfaire les oreilles de ma femme, qui, elle, par contre, est très 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 friande des standards de Pierre Bachelet. Ça, c'était un petit peu ma vie. Mais je vais plus... Par contre, j'ai quelques morceaux de lui. Justement parce que, et c'est ceux que je vais vous faire écouter, qui sont assez surprenants. Le premier s'appelle OK Chicago. Il est issu d'un projet qui s'appelle Résonance. Alors, c'est le moment de la petite histoire. Résonance, c'est une collaboration de Pierre Bachelet et Matt Camison, qui se dit peut-être Camison, parce que le gars est français quand même.
On s'est demandé.
Mais vu que je l'ai vu que par écrit, que j'ai jamais vu d'interview de lui ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc, je fais le parti d'utiliser l'option un peu cool angliciste, Matt Camison. Donc, je vais l'appeler comme ça. Et donc, en 73, ils se rencontrent dans un truc qui s'appelle Télémusique. Alors, Télémusique, ils sont encore inconnus du grand public, hein. Télémusique, tu vas me demander, Julien,
qu'est-ce que c'est que Télémusique ?
Télémusique, c'est très intéressant parce que Télémusique, ce n'est rien d'autre que le leader français à l'époque de production de librairie musicale. En anglais, library music. Donc là, je sais que tu vois ce que c'est parce que tu as beaucoup de disques, toi, de library. Oui. Moi, j'en ai aussi quelques-uns.
Et nous en avons passé la dernière émission.
Oui, carrément. Et pour nos auditeurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est, même si tu en as un peu parlé, effectivement, tu l'as un peu expliqué à la dernière émission, en très gros, c'est l'ensemble des productions d'habillage musicaux ou sonores, de productions audiovisuelles. Donc, on pense aux génériques, aux musiques de pub, aux banques de sons, etc. Voilà. Et donc, Pierre Bachelet et Matt Camison, ils bossent à Télémusique, c'est ça. Et ils vont collaborer au sein de Résonance dans la création de morceaux destinés cette fois-ci à sortir sur disque, dont ce OK Chicago qui sortira en 45 tours, signé sous le nom de Baxon. Alors Baxon, bah, tu comprends peut-être maintenant que c'est la contraction des trois premières lettres de Bachelet et des trois dernières de... Alors tu sais pas,
ben
t'as
non,
pas suivi
toujours pas.
De Camison, voilà, donc ça fait Baxon.
Mais qu'est-ce que c'est que Télémusique ?
Oui, t'as pas du tout suivi. Télémusique, c'est... Non, on va pas la refaire. Ce titre funky, donc, OK Chicago, il intègre des bruitages évoquant la pègre la plus célèbre des États-Unis, d'accord, celle de Chicago, bien sûr. Et on peut supposer donc que la banque de sons de Télémusique n'y est pas étrangère. Quoi qu'il en soit, ce 45 tours connaîtra un certain succès en France et deux albums verront le jour avant que Résonance ne tire sa révérence à l'aube des années 80 ou au crépuscule des 70. On s'écoute donc ce OK Chicago, suivi d'un morceau, parce que je vais les enchaîner, un autre morceau de Pierre Bachelet, encore peut-être encore plus surprenant que celui-ci, car très électro, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure.
OK. We'll be right back. on the resolution.
Le manche-disque.
Surprenant, n'est-ce pas, ce petit Pierre Bachelet ?
Exactement, j'aime beaucoup le fait qu'on ait pu découvrir une facette beaucoup moins connue et bien trop méconnue de cet artiste.
Bah oui, carrément. Et puis ce dernier morceau qui s'appelle Motel Show, tu vois, très électro, est composé en 1978, donc après, du coup, la BO d'Emmanuel. Mmh. Donc là, pour le coup, il est, son succès est un petit peu naissant, quoi. C'est pour une autre BO d'un film aussi de Juste Jacquin, qui est aussi le réalisateur d'Emmanuel. Et ce film, il s'appelle Le dernier amant romantique. Voilà, cette BO, elle est sortie en 33 tours, bien sûr, en 1978, l'année de la sortie du film. Mais personnellement, moi, je l'ai trouvé, ce morceau-là, sur une compilation plus récente et très intéressante, parue chez Because Music, qui s'appelle Cosmic Machine. Elle est sortie en 2 tomes. Je la conseille vraiment vivement à nos auditeurs. Le sous-titre de Cosmic Machine, ça pose le décor, en gros, c'est « A Voyage into French Cosmic and Electronic Avant-Garde ».
Avant-garde.
Donc, tout est dit dans ce sous-titre. On trouvera donc dans cette compile des perles rares et moins rares aussi, mais en tout cas des balbutiements de la musique électronique à la française, et notamment des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui la French Touch. Donc on y trouve des noms incontournables comme Jean-Michel Jarre, Céron, Space, pour ceux qui connaissent, mais aussi plus surprenants comme ce Pierre Bachelet, mais aussi Patrick Juvet. Voilà, donc ils ont fait des trucs, souvent d'ailleurs dans des projets soit de bande originale, soit des habillages sonores, etc.
Télévisuels un peu aussi, ouais, je crois.
Ouais. Mais souvent en fait des choses pour arrondir leur fin de mois, sauf que...
Voilà, ça devait être bien payé, je pense, par la télé. Et...
Bah, c'est ça, ça permet de manger. Et en fait, dans des petits trucs qu'ils ont fait pour manger, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Voilà. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment ces deux tomes de cette compilation. Chacun, donc, pour parler un peu plus de l'objet, en édition double vinyle avec des illustrations dessinées magnifiques. Des illustrateurs d'ailleurs que c'est un peu plus ton rayon, tu t'en
Casa,
souviens,
Drouillet,
on en avait parlé,
crois.
Ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, et puis je remercie, j'en profite pour faire un coucou à Stéphane de Homewax qui m'a vendu le tome 1, donc sur lequel vous trouverez ce Motel Show de Pierre Bachelet. Et chers amis auditeurs, c'est l'heure de vous parler de la grosse fête du vinyle qui se prépare dans 15 jours.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Donc
lors
c'est
d'une convention.
Voilà.
Une convention nantaise.
Une convention nantaise. Donc qu'est-ce que c'est qu'une convention ?
C'est très simple. Bonne question.
C'est un endroit où des passionnés de vinyle se réunissent, mais surtout des vendeurs et revendeurs, pros et semi-pros essentiellement, qui viennent avec leur bac. Tout le monde se réunit dans un gymnase. L'entrée est souvent payante, mais c'est une somme modique. Et on déambule toute la journée avec des animations parfois, mais surtout de très bonnes affaires à réaliser le temps d'une journée ou d'un week-end.
Ouais, et puis des perles rares aussi qu'on peine à trouver, que ce soit en vide-grenier ou sur internet à des prix abordables.
Exactement.
Et on peut aussi en profiter de ces conventions-là pour trouver ça.
Toutes les échelles, il y en a des petites, il y en avait une il n'y a pas si longtemps à la Guyonnière, et je vous en reparlerai pour sa seconde édition. J'ai malheureusement pas trop parlé de cette première édition, mais ça valait vraiment le coup d'œil. Là, il y a Nantes, il y avait aussi Utrecht.
Il y a
deux semaines.
En Hollande, je crois que
c'est gigantesque et mondial, pour le coup. Enfin, Nantes aussi, c'est mondial, mais c'est peut-être pas à la même échelle, quand même.
On va dire que c'est international, Nantes, mais que Utrecht, c'est vraiment une autre dimension. J'ai pas les chiffres en tête, mais il y a plusieurs Nantes dans un Utrecht en termes de convention.
Mais là, imaginez, voilà, un gymnase entier, par exemple, recouvert d'allées, de revendeurs de vinyle, donc c'est assez, faut respirer, quoi. Faut éviter de tomber dans les pommes.
Carrément, cette année d'ailleurs c'est les 7 et 8 décembre qu'aura lieu le salon international du disque de Nantes, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Et effectivement tu l'as dit, c'est dans la salle de la Trocardière, donc pour ceux qui connaissent un peu Nantes, c'est pas vraiment à Nantes, c'est à Rezé en fait, une ville de la banlieue nantaise, mais vous voyez un petit peu la dimension du truc. La Trocardière, ça a accueilli quand même pas mal de concerts, donc il y a de la place, on parle de 500 mètres linéaires je crois de stand, donc ça fait du disque, ça fait du disque, je pense que ça se compte facilement en millions, hein. Donc vous pourrez trouver donc des disques de tout style et à tout prix, hein, donc pour claquer votre blé bien sûr, mais aussi converser avec des passionnés, hein, qu'ils soient vendeurs, acheteurs ou organisateurs, hein. On croise aussi des artistes sur place. C'est l'occasion aussi de se faire dédicacer un disque cette année. Donc j'ai noté, on annonce entre autres la chanteuse Marie-Jo du groupe Denise Twist, le journaliste, musicien et critique rock Patrick Eudeline, qui fera même un showcase parce qu'il est, comme je l'ai dit, musicien. Ouais. Un autre homologue, Jean-Albert Beaudenon, un autre journaliste et musicien. Et on n'oublie pas les artistes régionaux qui, je crois, c'est la nouveauté de cette année, auront un stand dédié aux artistes régionaux. C'est plutôt sympa. On cite des noms comme Manu, Gendarme, After the Sun, Léo Seeger, les Dolzmen et un petit peu la tête d'affiche des Nantais, Elmer Footbeat, qui sera présent.
L'institution.
Voilà, qui sera présent lors de ce salon. Donc si vous êtes amateur, ce sera l'occasion d'aller discuter avec eux ou vous faire dédicacer un de leurs disques. Ça fait toujours plaisir. Donc ouverture des portes à 10h le samedi 7. Voilà.
On y sera. Hein.
On y sera, nous. Entrée 3 petits euros.
Et justement,
voilà, ça s'étale après. On en reparlera tout à l'heure de ces trois petits euros. Ça s'étale après pour le dimanche. Nous, on y était l'année dernière. Hein, c'était quand même assez sympa.
Bonne
caverne d'Ali Baba. Enfin, je sais pas ce que t'en as retenu.
Moi, j'ai ramené un Brian Eno, donc c'est déjà journée
ça
était faite.
Déjà, tu ramènes un Brian Eno, toi, t'es content. Pour te connaître un petit peu, je sais ce que. Moi, j'avais ramené, je crois, une dizaine de disques. Hein, j'avais pas non plus trop. Après, c'était des disques pas premier prix forcément, donc j'avais quand même laisser un petit peu de thunes dans l'histoire, mais j'étais aussi bien content. C'était des disques que je cherchais depuis assez longtemps, et voilà, il y a tellement de disques là-bas que il y a beaucoup de chance que vous trouviez votre bonheur, dans l'idée bien sûr que ce soit pas quelque chose de trop cherché, auquel cas il faudra non seulement avoir la chance de le trouver, mais aussi la chance d'être le premier dessus, parce que vous serez pas le seul. Mais voilà, donc 3 euros, vous allez me dire peut-être, mais attends, 3 euros, oui, c'est bien c'est sympa, mais 3 euros, quand il y a des stands à 2 euros, c'est un peu dommage de commencer sa journée en, voilà, en commençant par, par dépenser 3 euros dans l'entrée. Eh bien, justement, figurez-vous qu'au Mangisque, on va vous dire qu'à cela ne tienne.
Exactement.
Chers auditeurs, qu'à cela ne tienne. Parce que figurez qu'on va vous organiser un petit jeu pour tenter de gagner vos invitations. Voilà. Une invitation pour deux personnes.
Exactement.
D'accord. Pour chaque gagnant, voilà. À ce salon international du disque de Nantes. Invitation égale, bien sûr, vous ne payez pas l'entrée, on vient de le dire. Donc vous pouvez dépenser vos 3 euros dans un disque, soit une partie d'un disque, soit un bac qui va vous permettre d'emporter un disque carrément à 3 euros. Mais invitation, ça veut dire aussi que vous doublez tous ceux qui fouillent dans leur porte-monnaie pour trouver leur petite pièce avant de rentrer. Vous accédez au bac avant eux et vous raflez l'occasion du siècle au nez et à la barbe du commun des mortels.
Tant que c'est pas Brian Eno, moi ça me va.
Voilà. Et tant que c'est pas à notre barbe, à nous, ça nous va aussi. Cerise sur le gâteau, hobby sur la pochette. On a également eu l'idée de faire de la place aux gagnants lors des prochaines émissions du Manche Disque, afin qu'ils puissent nous parler de disques qu'ils auront chopés au Salon Nantais.
Voilà, donc histoire de partager un peu.
Histoire de partager. Alors après, c'est pas obligé. Si vraiment, faut pas que ça vous empêche de participer en vous disant oh là là, mais moi j'ai pas envie de passer à la radio. Si jamais vous êtes un petit peu gêné, radiophobe, c'est possible. Voilà, on forcera personne. C'est bon esprit, le Manche Disque, mais si c'est possible, ça nous ferait bien plaisir parce qu'on partage toujours et puis les trouvailles des autres ne sont pas forcément dans nos rayons de connaissances et vous écoutez le Manche Disque, vous savez que notre philosophie c'est d'être très ouvert, très éclectique et voilà, il y a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas mais on a plaisir en tout cas toujours à découvrir et quand c'est quelqu'un qui aime, qui en parle, c'est toujours savoureux. Voilà, donc on va vous organiser ça. Pour l'heure, vous pouvez lâcher votre téléphone, vous rasseoir, souffler, parce que ça ne va pas se passer ici et maintenant. Mais vous trouverez dès demain, sur la page Facebook du Manche Disque, toutes les modalités pour tenter de gagner vos invites, qui nous ont été gracieusement, il faut le préciser, envoyées par Emmanuel Piette, qui est le principal organisateur du salon. Donc on le remercie chaleureusement. Et nous aurons le plaisir de l'entendre dans 15 jours lors de l'interview rituelle de fin d'émission. Voilà. Donc surveillez votre Facebook, plus particulièrement la page du Manche Disque. Voilà, vous tapez Manche Disque dans la barre de recherche de Facebook. Vous allez tomber sur un petit logo d'un petit personnage qui mange un disque griffonné au stylo bic. Ouais. C'est nous, voilà. Donc vous ne vous trompez pas.
Le restaurant de Rennes qui est peut-être très bon. Mais
qui s'appelle aussi le Manche Disque. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça la dernière fois. Ouais. Non, c'est pas un resto, mais on mange beaucoup de bons sons quand même. Voilà, retour à la musique, mon cher Julien.
Oui, avec toujours un nouveau morceau de Best of Bomb dont je vous parlais tout à l'heure. Alors cette fois-ci, c'est Willie Alexander and the Boom Boom Band, un morceau de 77. Alors, The Lost, The Grass Menagerie, The Velvet Underground à la fin 1971, puis une carrière solo et un parcours avec le Boom Boom Band qui continue jusqu'à nos jours. Enfin, quand je dis jusqu'à nos jours, c'est au moins il y a jusqu'à une dizaine d'années, puisque le monsieur va bientôt atteindre les 80 balais. Donc voilà, je ne sais pas s'il est aujourd'hui très actif. En tout cas, il y a encore 10 ans, il l'était. Donc voici la riche carrière du chanteur et claviériste anglais Willie Alexander. Donc voilà, y compris dans le Velvet quand même, hein, le Velvet tardif, mais voilà, c'est pas rien. Donc sur cette compile Best of Bump, j'ai eu envie de vous faire écouter un titre qui s'appelle Kerouac. Kerouac que vous connaissez peut-être parce qu'il y a 3 ans, il avait été repris par un monsieur qui s'appelle Tim Presley.
Ok, moi perso je connais pas mais...
Non mais le nom me disait quelque chose donc je me suis dit voilà les auditeurs les plus...
Bon, pas avec Elvis non
Non je suis pas sûr qu'il y ait un lien mais, mais voilà je me suis dit les auditeurs un peu plus modernes peut-être plus que moi connaîtront peut-être Tim Presley. Donc voilà Kerouac de Willie Alexander and the Boom Boom Band.
Ok. Et d'ailleurs, j'espère que bon, tu m'as dit il a 80 ans, mais ouais. J'espère qu'il a soigné son problème de S, parce que vous allez vite entendre sur ce morceau à quoi ça sert en prod musicale un DS-er, notamment dans un morceau qui visiblement n'en a pas. Et après ce cher Willie Alexander, hein, qui quand même fait des S assez présents quand même.
Bombe, c'est un peu punky comme label, hein. Je pense qu'il n'y avait pas toujours beaucoup de moyens. Donc,
ouais, mais c'est cool aussi hein, de voir des mecs qui ont la post-prod, ouais, ça grésille, on s'en fout.
Rock and roll.
Mon DSR, je ne sais pas où il est, dans quel fichier, voilà. Hop. Peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas trop numérique non plus.
Non.
Eh bien, écoutez, il est 23h35 précis.
Sur Radio G.
Sur Radio G, c'est le manche-disque. On vous fait écouter des disques vinyles et on vous en parle surtout. Et c'est l'heure pour moi de vous faire écouter, de vous parler en tout cas, et de vous faire écouter une jeune artiste anglaise que peut-être vous ne connaissez pas. J'ai nommé Rosie Plain. Rosie Plain, elle est originaire de Winchester. Elle a commencé la musique à 13 ans quand son frère lui enseigna quelques accords de guitare. Plus tard, elle part à Bristol étudier l'art et plus particulièrement la peinture, et elle se lance dans diverses collaborations musicales sur des scènes locales. Mais quand même, elle se met à être très productive puisqu'elle sort par la suite 3 albums, donc Inside Over Here en 2008, Joined Sometimes Unjoined en 2012 et Friend en 2015. Et en 2019, eh bien, elle sort encore un album, quatrième album, voilà. Donc, tu vois, quatrième album 2019, 2018, 2008, donc 11 ans, donc c'est quand même pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Qui s'appelle What a Boost, que vous pouvez entendre d'ailleurs sur Nova de temps en temps. Il y a un ou deux morceaux qui passent, donc c'est pas non plus la totale inconnue, Rosie Plain, mais c'est pas non plus la grosse célébrité. Et donc, dans le cadre de la tournée relative à ce nouvel album, What a Boost, je suis allé la voir aux Jokers, voilà, une fois encore. On a coutume de dire, voilà, que c'est notre cantine, notre base arrière, comme tu dis. Mais en tout cas, voilà, on a de cesse de dire à quel point on a de la chance de pouvoir assister à des beaux concerts aux Jokers. Et le son de Rosie Plain, en fait, il se caractérise par une pop folk à l'ambiance très éthérée, des jeux subtils sur des sonorités délicieusement modernes, rétro, avec des effets synthétiques et des rythmiques jazzy, des harmonies vocales. Enfin, tout ça, vous allez voir ça. L'écoute, elle évoque finalement une douce mélancolie très agréable, hein, plus que des tripes un peu psychées, un peu planant, même si c'est très envoûtant. Enfin, c'est une atmosphère, en tout cas, en concert qui était délicieuse, moi, pour dire tout à fait mon sentiment. Je vous ai choisi un morceau qui n'est sans doute pas le plus commercial de l'album, mais qui illustre tout à fait les sensations que j'ai aimé ressentir lors du concert. Ça s'appelle Quiz de Rosie Plain. L'heure est parfaite pour ce genre de douceur. Je n'ai strictement rien d'autre à dire sur ce morceau que l'impression dans laquelle il nous plonge à sa conclusion. Je te laisse enchaîner avec le prochain morceau.
Oui, il s'agit d'un morceau des McCoys. Alors les McCoys s'est formé à Union City dans le Montana en 62. Ils sont surtout connus pour leur tube Hang on Scoopy, datant de 65, numéro 1 aux USA et titre rock officiel de l'État de l'Ohio, écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Ils sortent 4 albums de 65 à 69 et ensuite les deux frères Zeringer vont aller jouer chez Johnny Winter, Edgar Winter, Steely Dan, Cyndi Lauper. Là, je vous propose un morceau qui s'appelle Daybreak et que je tire d'une compile française réalisée par Patrick Taton en deux volumes, intitulée Underground Explosion, datant de 68 et 69.
Let's go Daybreak. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission.
Exact.
Et de l'interview hein, de fin d'émission. Et ce soir, parce que j'allais dire cette semaine, mais on est là tous les 15 jours. Ce soir, c'est King Oliver.
Vous venez de l'entendre un petit peu avant nous.
Vous venez de l'entendre, il vient de nous passer l'antenne et on va le retrouver à la fin de notre émission pour une interview en bon passionné de vinyle qu'il est. Nous, on vous dit à dans 15 jours.
Exactement.
On vous racontera comment s'est passé le salon de Nantes.
Bye bye.
Belle nuit à vous. Ciao, ciao. Et je suis avec un camarade de Radio G, l'animateur de Intoxica, l'émission juste avant le manche disque, King Oliver. Salut.
Salut.
Merci de te prêter au jeu de l'interview du manche disque.
Pas de souci.
Tu es, comme je l'ai dit, l'animateur d'Intoxica. Je te laisse peut-être te présenter un peu plus à l'antenne.
Oui, bah écoute, Intoxica, en fait, c'est une émission que j'anime depuis 2002, donc ça fait 17 ans. Et grâce à Radio G, c'est l'émission, comme j'ai l'habitude de le dire, la plus rock'n'roll de Radio G, puisqu'on va puiser, je vais puiser dans les racines du rock'n'roll, jusque dans les années 40, 50, 60 et actuelle, puisqu'il y a encore une scène très dynamique.
Donc comme tu le sais, cette émission du Manche Disque, ben, comme son nom l'indique, elle parle essentiellement du disque vinyle. Et la première question de l'interview, je vais te demander ton avis, sur le retour hein, dont tout le monde parle, le retour du disque vinyle aujourd'hui.
Bah écoute, pour moi, le vinyle il a jamais disparu, il a toujours été partie prenante de ma vie, donc j'ai jamais senti qu'il avait disparu. C'est vrai qu'il y a eu l'assaut du disque laser, du CD dans les années 90. Maintenant, c'est vraiment un format qui, pour moi, m'a jamais séduit parce que classiquement, enfin, je dirais, au niveau des pochettes d'albums, il n'y a pas un format suffisamment grand pour s'exprimer au niveau de la pochette en termes artistiques. Et puis, j'ai toujours aimé le son analogique.
Ok, et justement, alors, est-ce que tu te souviens de ta première expérience en termes de disque vinyle, ton premier souvenir qui te vient avec cet objet?
Bah, le premier souvenir, c'est celui de mes parents. Quand j'étais en famille, ils avaient toujours des disques vinyles, hein, que ce soit Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Gene Vincent, Eddie Cochran. Donc à la maison, on a toujours écouté du disque vinyle. Ils prenaient le temps de mettre le disque, de le poser, de l'écouter. Et je me souviens toujours de les voir danser aussi au son dans le salon au son de ces disques. Donc du coup... je perpétue un peu la tradition.
Ouais, complètement. Et alors, quand tu as été en âge de t'acheter ton premier disque vinyle, est-ce que tu te souviens le premier disque que tu as acheté ?
Le premier que j'ai acheté, je ne l'ai pas acheté, en fait, je l'ai volé.
Ok. Voilà. D'accord.
C'est un 45 tours des Stray Cats, donc j'avais envie, c'était dans les années 80, j'avais dû avoir 14-15 ans et voilà, je l'ai volé.
Et tu le voulais vraiment, 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 quoi ?
Oui, oui, je le volais, ouais.
Et tu peux nous en parler ?
Bah écoute, comment ça se passe ? Bah tu passes du temps autour du rayon, tu vois le disque, t'as envie de le prendre.
La question c'est, est-ce que tu peux nous parler de ce disque ?
Ah d'accord, je croyais que c'était du vol.
Non, non, non. Du morceau.
Ah ouais.
Ou des morceaux. Du 45 tours.
Ouais, c'était Stray Cat Strut, donc c'est un morceau des Stray Cats, c'est un groupe new-yorkais des années 80 qui a réinitié le mouvement rockabilly dans les années 80, vers la fin des années 70. Et puis, je les ai encore vus au mois de juin pour fêter leur 40e anniversaire en concert à Tours. Donc c'était super, quoi.
Alors King Oliver, est-ce que tu te définis, toi, comme un collectionneur de vinyles ? Je sais que tu passes essentiellement, ou même que, des vinyles dans ton émission.
Oui.
Est-ce que tu te considères par ailleurs comme un collectionneur ?
Je crois qu'il faut relativiser par rapport à ça. Je connais des collectionneurs qui vont débourser des milliers de dollars pour avoir un 45 tours. Moi, j'en suis pas là. Moi, j'achète des reproductions de 45 tours qui valent une petite dizaine de dollars. De temps en temps, je me fais une petite folie. Mais j'aime bien aussi aller puiser dans le grenier de Radio G, parce qu'il y a beaucoup de vieux cartons, de vieilles caisses qui sont poussiéreuses, et dedans, on retrouve encore des belles pépites.
Ah bah c'est très bon à savoir, ça. Merci pour le tuyau, King Oliver. On savait pas ça au Mange-Dix, pas encore.
Allez voir.
On va aller voir, Tu peux nous faire confiance. Alors c'est maintenant l'heure de conclure l'émission. Tu sais, la tradition, c'est que c'est l'invité qui choisit le morceau de sa collection. Alors qu'est-ce que tu nous as choisi pour aujourd'hui ?
Eh bien écoute, je t'ai choisi un 78 tours enregistré sur le label MGM Records, qui était également qui était un label, okay. Metro-Goldwyn-Mayer, qui produisait aussi des films, et un artiste que j'apprécie particulièrement puisqu'il est l'un des initiateurs du rockabilly, c'est Hank Williams et son morceau Hey Good Looking, un grand parolier, compositeur et interprète de honky tonk, donc une branche de la country music, et c'est un morceau qui a été enregistré en mars 1951.
Eh bien, dis donc, je pense qu'ils ne vont pas être nombreux ceux qui vont nous proposer un 78 tours dans le manche-disque. Donc, on te remercie beaucoup.
Ça craque, mais c'est normal.
Eh bien, très bien, très bien. On va découvrir ça ensemble. Merci beaucoup, King Oliver.
Merci, à bientôt.
Salut.
Ciao.
How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Thank you.
mean. No more looking, I know I've been cooking. How about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence and buy me one for 5 or 10 cents. I'll keep it till it's covered with age, 'cause I'm writing your name down on every page. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me?
Radio G 101.5 FM.